Peut-être que je vais avec ma fille au SNIF. Ils font un Zicaron Bassalone au SNIF.
Ça, j'ai fait hier au SNIF du premier accident.
Voilà, elle est là, Ariel. Donc, peut-être que je vais l'accompagner là-bas.
C'était bien d'ailleurs, parce que ouais. Les gosses, c'était quoi, dans les panérimes de danse, c'est des 12 ans, j'imagine. Mm-hmm. Et ben, ils étaient au moins une quarantaine.
Ah, c'est bien.
Écoute, j'ai eu plein de questions.
C'est beau.
Et franchement, ils ont pas dit un mot. Ils se sont tenus merveilleusement
bien. En effet. Alors voilà les amis, nous avons un cours un petit peu particulier. Mmh. Voilà, on va pas encore tout de suite reprendre. Hein?
T'as mis
oui,
un
ça on
va pas encore tout de suite reprendre le livre de Bereshit. On refera ça, alors pas la semaine prochaine, parce que semaine prochaine, Yom HaAtzmaout, hein, évidemment. Alors voilà, on sera dans le passage de Yom HaZikaron, Yom HaAtzmaout. Mais la semaine d'après. Kitzur, aujourd'hui, on va parler évidemment Yom HaShoah. On s'est posé la question de quoi on allait parler. Et donc tu m'as dit, et c'est pourquoi on ne poserait pas la grande question. Hein, la question qu'on ne veut pas poser, la question qu'il ne fallait pas poser, quelqu'un qui fâche. Où était Dieu pendant la Shoah? Alors, c'est évidemment la grande question. Et en vérité, la réponse, elle est toute simple, mais... comme elle est tellement simple, elle nous fait nous poser énormément d'autres questions. Vous savez, quand on parle de « Où était Dieu pendant la Shoah ?», il y a trois styles de réponses. C'est comme ça que parlait Manitou, il disait qu'il y avait trois styles de réponses. Il y a la réponse de dire, comme par exemple pouvait soutenir le professeur Ishayahu Leibovitch, de dire « Ne te pose pas la question parce que de toute façon l'histoire n'a pas de sens ». Et donc, il ne faut pas chercher à comprendre quoi que ce soit. Il faut juste faire la Torah et les mitzvot, et puis c'est tout. Voilà. Donc, en fait, voilà. Tu donnes une réponse qui... Voilà. Bah, évidemment. C'est-à-dire que tu as essayé de noyer le poisson en disant, en fait, je ne me pose pas la question. Bon.
C'est
évidemment que
c'est... possible de ne pas se poser la question.
Évidemment, évidemment. Donc, c'est sûr que ce n'est pas vers ça qu'on va aller. Il y a un autre style de réponse qui est aussi absurde. On a pu entendre ça chez plusieurs personnes, par exemple Martine Boubert. Dieu était en vacances. Il était en vacances. Il était en Tihoul sur une autre planète.
Ouais,
bon, il n'était pas là. Alors évidemment qu'il ne dit pas ça comme ça, mais il a fermé les yeux. Mais c'est absurde. C'est absurde dans le concept judaïque du divin. Et ça ne nous laisse pas le choix que d'arriver vers la troisième sorte de réponse qui dit, mais il était là. Il était à Auschwitz, il était à Majdanek, il était à Treblinka, il était à Sobibor. Il était là. Sauf que de dire ça, c'est ce qu'on dit tout le temps, c'est ce qu'on dit tous les jours, dans toutes les situations, que Akadosh Baruch Hu, il est partout. Mais quand on dit ça, évidemment, ça nous amène à toutes les questions les plus légitimes du monde. Ah oui, mais alors, pourquoi? Je vous ai ramené aujourd'hui pour essayer d'étudier en profondeur la question. Je vous ai ramené le classeur.
Pas mal, c'est pas mal.
Alors, dans ce classeur se trouvent quelques pépites. Puisque je prends ce classeur avec moi en Pologne. Et il y a plein de choses là-dedans. Des choses à la main, des choses photocopiées, des choses photographiées. Et plein de réponses différentes à cette question. Pour commencer, j'aimerais vous lire plusieurs textes qui vont nous permettre d'aider à réfléchir à la question. Alors, on ne fait pas une soirée témoignage, mais tout de même. Alors, évidemment qu'il y a des textes qui sont difficiles, mais on n'a pas vraiment le choix. On n'a pas vraiment le choix. Donc, je vais volontairement commencer par un texte dur. Un texte dur qui est un témoignage qui a eu lieu en 1946. Un des premiers témoignages. 1946, on est au procès de Amon Goethe. Amon Goethe, le dirigeant, le commandant du camp de Plachov, à côté de Cracovie. Certains diront que c'est un camp où finalement il y a eu peu de morts. Près de 8000 morts. c'est sûr que quand on sait qu'Auschwitz est à une heure de route, à peu près un peu plus, de Plachov, 1 million, 200 000, 1 million, 200 000, 8 000. Et pourtant, la barbarie qu'il y avait à Plachov, due à cet homme, Amon Göth, était absolument incroyable. Et elle va nous entraîner dans une question très importante qu'on doit se poser au début de notre cours. Alors, Henri Bloch répond, enfin, témoigne au procès de Amon Göth. Il dit comme ça, Göth avait ordonné de donner 100 coups de fouet à chaque détenu, mais chacun eut droit à plus de 200 voire 300 coups. Battu par un seul, il était impossible de compter correctement. Ensanglanté et devait encore annoncer « J'ai supporté ma punition ». Un homme hurlait terriblement lors de la punition. Göth lui ordonna de faire moins de bruit et de compter, mais l'homme ne se calma point. Göth s'approcha de lui, prit une demi-brique qui traînait par terre, se dirigea vers la table et lui fracassa le crâne. On continua à le fouetter, à lui lancer des seaux d'eau. Dégoulinant de sang et le crâne fendu, l'homme se releva de table, se rapprocha de Göth pour faire son annonce qu'il avait bien supporté sa punition. On lui ordonna de partir. L'homme se retourna. Göth sortit son pistolet et l'abattit d'une balle dans la nuque. Dans le même temps, après ce témoignage-là terrible, pour ceux qui ont vu la liste de Schindler, alors si c'est tout le monde, c'est très bien, si c'est pas tout le monde, vous savez ce que vous faites ce soir. Il y a une scène qui est vraie puisqu'elle provient d'un témoignage d'un des survivants. Il y a un homme qui est également à Plachov et qui est placé pour travailler, pour faire des charnières de portes. Ah, son travail. Et donc, il va s'attester à faire des charnières. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il y a une inspection de Göth, il arrive, il lui dit, bon, je vais chronométrer pour voir combien de temps tu mets pour faire une charnière. Allez, au boulot. J'ai un nouvel arrivage de juifs, il faut que je fasse de la place, on va voir si tu mérites ta place. Il fait des charnières, il le fait dans un très bon temps. Et Göth, tu dis, c'est très bien. Très bien. Mais j'ai juste une question. Tu fais des charnières dans un temps vraiment très bon, mais si tu es au travail depuis 6 heures du matin, comment se fait-il qu'il y ait un si petit tas de charnières que tu as fait depuis ce matin? Et donc, il l'emmène dans la cour et il veut le tuer. La scène elle est irréaliste. Il y a Göth, deux de ses officiers et cet homme qu'on met à genoux et Göth sort son arme pour lui mettre une balle dans la nuque directement. Et il tire et l'arme s'enraye. Ça peut arriver. Et au moment où il est en train d'essayer de recharger, d'enlever l'enrayement, le juif dit, écoutez, si jamais, juste que vous sachiez, si j'ai un si petit tas de charnières, c'est parce que ce matin, depuis 6 heures, on m'a mis au pelletage du charbon. Et je n'ai retrouvé mon poste que 20 minutes avant que vous arriviez. Et il tire une deuxième fois avec son pistolet, et ça ne marche pas. C'est très bizarre. Son officier lui donne un autre pistolet, ça ne marche pas. Et il réessaye encore une fois avec ce deuxième pistolet, ça ne marche pas. 4 fois, on va essayer de le tuer, ce juif, ça ne marchera pas. D'un côté, quand on lit le témoignage d'Henri Bloch, et qu'on repense à notre question, mais où était Dieu pendant la Shoah?
Il est là.
On dit, mais attends, mais comment c'est possible? La brique, le crâne fondu, les tables rouges de sang, il est là, Dieu? Et quand on entend le témoignage de l'autre, on dit, mais il était là, il l'a sauvé. Et donc, on se pose encore une fois une autre question. Alors, pourquoi lui?
Pas lui, ouais.
La première chose qu'il faut se rappeler quand on parle de la Shoah et de où était Dieu pendant la Shoah, hein, j'aimerais qu'on commence par une autre question, les amis. Vous vous rappelez d'un homme qui a été un spectateur de la Shoah? Il n'est absolument pas menacé par la Shoah, il est chrétien, protestant, il a 20 ans, et il voit la Shoah en tant que spectateur. Non seulement il est chrétien, protestant, mais il est fils de pasteur et lui-même se dirige vers une carrière dans les ordres. Et la Shoah va lui faire complètement tourner. et il va prendre conscience de l'échec complet du christianisme suite à la Shoah. Il écrit ici, il semblerait que les hommes ont perdu le contrôle d'eux-mêmes. Il ne s'agit pas seulement de dire qu'ils n'ont pas été capables de s'arrêter. Semble-t-il qu'il y avait ici une force qui les dépassait, mais ils ont décidé de s'y engouffrer. Si 2000 ans de chrétienté au message d'amour a engendré une Europe capable de faire la Shoah, c'est que ce message en entier est à remettre en cause.
Comment il s'appelle ?
Il s'appelle Avraham Livni et il écrit ça dans son livre Le retour d'Israël et l'espérance du monde. Avraham Livni va se convertir finalement au judaïsme, devenir un des élèves du Rav Tzvi Yehuda, un grand Talmid Chacham, et il écrit un livre magnifique que je conseille à tout le monde qui s'appelle Le retour d'Israël et l'espérance du monde en français. Il a été traduit en hébreu, mais l'original c'est en français. Et vraiment, ça vaut le coup. Et donc, il pose la question, en fait, la question n'est pas tant de se demander où était Dieu, mais il faut se demander où était l'homme. Où était l'homme pendant la Shoah ? C'est-à-dire, la responsabilité première de la Shoah, c'est les nazis. Souvent, on veut mettre ça sur le dos de Dieu ou d'autres forces. Les premiers responsables, ce sont ceux qui ont décidé de faire le mal. Ça, c'est très important de s'en rappeler, quoi. Je veux dire, nous ne sommes pas, bien que ce soit à la mode, mais nous ne sommes pas musulmans. Dans l'islam sunnite, il n'y a pas de notion de libre arbitre. Ce qui veut dire que le terroriste musulman qui va tirer sur des gens dans la rue, il peut venir se dire, c'est pas moi, c'est Mektoub. Je ne suis que le bras armé d'Allah. Mais nous, les juifs, on croit qu'il y a le libre arbitre chez l'homme. Et donc, si tu as décidé d'obéir à un ordre, ben c'est toi qui as décidé. Les nazis sont les premiers responsables de la Shoah, et non pas une force supérieure. S'il y avait eu un météorite énorme qui s'était abattu sur les juifs, on aurait pu dire c'est Dieu. Mais il y avait des gens. Il y avait des gens qui avaient des choix.
Évidemment. Ils ont tous marché, tous obéi. C'est vrai.
Et combien on en a de témoignages ?
C'est pas Hitler seul le responsable.
Mais évidemment. Combien on en a de témoignages qui montrent qu'ils étaient normaux ? Chaque fois que je guide des gens en Pologne, à Yad Vashem, demain je vais aller avec Yad Vashem avec des groupes de jeunes. Et je sais déjà qu'ils vont me dire mais ils étaient fous. Non, ils n'étaient pas fous. Endoctrinés, embrigadés, ce que tu veux, qu'on leur avait donné au biberon, que les juifs n'étaient pas bien. Ben, ça d'air. Mais ils n'étaient pas fous. Ils avaient une vie de famille, ils avaient des loisirs, ils étaient d'ailleurs très souvent aussi végétariens. Ils avaient des valeurs, ils n'étaient pas fous. Et ils ont décidé de faire ce qu'ils ont fait. Alors, on a commencé à se poser la question, donc, où était Dieu, où était Dieu, où était Dieu ? Et j'ai dit, voilà, la question n'est pas tant où était Dieu, mais la question est plus où était l'homme ? Maintenant qu'on a dit ça, on va quand même revenir à notre sujet principal. Quand on a dit Dieu, il était à Auschwitz. Et donc on a dit, bah forcément, ça amène à la question, mais alors pourquoi il n'a rien fait ? Les amis, encore une fois, c'est une question de point de vue. Alors, on me dira, vas-y, quelle question de point de vue ?
On m'a dit qu'ils n'étaient pas religieux.
D'abord, une chose est sûre, on ne peut pas dire que ceux qui ont péri étaient... Dafka n'est pas religieux ou Dafka est religieux ?
Ah non, il y a eu de tout.
Alors, il y a des choses qui sont fantastiques. J'ai surpris ma fille en train d'écouter un cours de Torah. Il y a pire dans la vie.
Ouais.
en train d'écouter un cours de Torah.
Mieux qu'elle écoute.
Oui, voilà. Et le Rav, par contre, a dit une énorme bêtise. C'était un cours sur la Tzniout. Et il a dit que tu comprends que si tu n'es pas habillé tzniout, tu amènes le mal autour de toi. Et il y a des gens qui peuvent tomber malades et tout machin à cause de toi parce que tu n'es pas tzniout. Des gens que tu ne connais même pas.
Ça, hein.
Donc je lui ai dit, tu sais, ça, je suis très content d'être rentré dans ta chambre à ce moment-là, c'est très important, c'est complètement faux. C'est pas juif, c'est marqué nulle part. À la limite que toi, il t'arrive quelque chose de mal parce que tu transgresses la Torah, je peux entendre. Mais que quelqu'un que tu ne connais pas, il lui arrive quelque chose de mal parce que toi, tu as fait quelque chose de pas bien. Elle me dit, oui, mais tout Israël est relié. J'ai mis la bondo, mais tout Israël est relié. Je dis, tu sais, dans la Shoah, il y a des rabbins qui ont dit, la Shoah a eu lieu parce que les Juifs ont parlé pendant la répétition de la Hamida. C'est le meilleur que j'ai trouvé. Ah, j'en ai pas eu des. Ah non, mais ça c'est classique. Moi, je te parle du top, de ce que j'ai. C'est le meilleur que j'ai entendu. Parce que, attention, c'est pas bien de parler pendant la répétition de la Hamida. Je suis contre le fait de parler pendant la répétition de la Hamida. Mais voilà, est-ce qu'on a besoin vraiment de. Hein, c'est pas mal. C'est ça, hein. À Metz, on ajoute. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Donc, vous comprenez que ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. Oui, tout Israël est relié, d'accord, mais il faut qu'il y ait une relation de cause à effet. Sachar va onesh. Une dimension de libre arbitre, elle est aussi pour nous. Et donc, je lui ai dit, tu sais, quand on parle de la Shoah, qui est mort dans la Shoah ?
1 million d'enfants.
1,5 million d'enfants, qui d'après la halakha ne sont pas coupables de rien, ils sont encore des enfants. Au-delà de ça, sont morts près d'1 million aussi de tzadikim, qui étaient religieux dans tous les sens possibles et imaginables, qui ont donc certainement pas... Je veux dire, peut-être qu'ils ont oublié un jour de faire la bracha avant de manger un chewing-gum, mais je ne suis pas certain que le châtiment pour ça soit la Shoah. Il y a aussi, je n'ai pas de chiffres, hein, mais un nombre incalculable de gens qui n'étaient pas religieux, certes, mais qui étaient déjà nés dans des familles pas religieuses, auquel cas ils sont considérés comme Tinoch Shenishba Ben Agoïm, et donc on ne peut pas leur en tenir rigueur de ce qu'ils ont fait ou pas fait. Donc, tu vas me dire quoi ? La Shoah, elle a puni ? Puni qui ? Des gens qui étaient, d'après la loi juive, pas punissables. Donc, tu comprends de venir dire que c'est une punition ? C'est absurde. Il me dit, alors quoi ? Alors pourquoi ? Je lui dis, tu poses une énorme question et je vais te dire un grand principe. Il y avait la semaine dernière mon examen de prophétie et je l'ai raté. Je ne suis pas prophète. Et dans la mesure où je ne suis pas prophète, ma réponse va être sans appel. Pourquoi il y a eu la Shoah ? Je ne sais pas. Et si quelqu'un te donne une autre réponse que je ne sais pas, et ce, quelle que soit la longueur de sa barbe, c'est un menteur. Nous dit le prophète Yéhézkiel, « Lo marchevota et marchevotechem, velo drachechem derachai amarachem. » Mes chemins, ce n'est pas vos chemins, mes pensées, moi je ne sais pas. Mais, quand on dit, mais attention, pourquoi il a laissé faire ça ? J'ai dit, ça dépend du point de vue. Parce que certains te diront, il a laissé faire ça. Certains te diront, il a été occupé à trouver des moyens de me sauver. Parce qu'encore une fois, combien sont morts dans la Shoah ? On sait. Combien ne sont pas morts dans la Shoah ? Quand je dis ne sont pas morts dans la Shoah, je ne parle pas seulement des rescapés des camps.
Ceux qui sont décachés et tout.
Il y a de tout. Ton histoire, tu n'es pas un rescapé des camps.
Non.
Et pourtant, tu es un survivant de la Shoah.
Oui.
Tu comprends ? Et donc, tu fais partie du compte de ceux qui ne sont pas morts dans la Shoah. Comment est-ce qu'on décompte un truc comme ça ? Ma grand-mère qui s'est... Alors, ma grand-mère qui a été déportée à Auschwitz. Oui, alors facile. Mais mon autre grand-mère qui s'est cachée de forêt en forêt, de maquis en maquis, voilà. C'est aussi...
L'hôpital, service de la contagion.
Service de la contagion. Les grands blessés, le père de ma grand-mère, qui était dans un hôpital d'anciens combattants militaires français et qui a passé toute la Shoah là-bas. Même pas prisonnier. Hôpital, parce qu'il était blessé de guerre. C'est aussi un survivant de la Shoah. Donc, si vous voulez, nous, on passe notre temps c'est normal, à pleurer nos morts. Et peut-être que, et c'était le, j'ai donné un cours au début de la semaine sur, j'ai dit si on va faire un cours sur Yom HaShoah, mais vous pouvez le retrouver sur YouTube, mais je ne vais pas du tout m'occuper de ce qu'on a perdu durant la Shoah, ça je l'ai fait dans d'autres cours. Là, je vais essayer de voir maintenant, après la Shoah, qu'est-ce qu'on a réussi à gagner après la Shoah ? Qu'est-ce qu'on a construit après ? Et encore une fois, pas Stam après, suite à, je ne vais pas dire grâce à, mais suite à la Shoah, qu'est-ce qu'on a réussi, nous, peuple juif, à faire ? En traînant avec nous ce paquet énorme qui s'appelle la Shoah. D'ailleurs, donc, c'est quelque chose qui est très important. Et c'est pour ça que on vit sur des photos. On vit sur des photos qui nous rappellent le passé et on essaye d'expliquer à nos enfants, à la jeune génération, et de les faire rentrer dans l'histoire. J'ai même acheté, alors vous allez me dire que je suis un tapé. Oui, ça c'est pas que de ma faute. C'est aussi de la cause de la faute de son fils et d'autres personnes qui m'ont rendu tapé. Mais j'ai quand même acheté à mes enfants une BD en 5 volumes sur l'histoire de Sobibor.
Oui,
il
faut être tapé.
Ouais, attends, mais elle est bien, elle est très bien. Je l'ai montré à Shlomo, il dit je ne connaissais pas.
Non.
Voilà. C'est une BD en hébreu, 5 volumes, sur l'histoire de la révolte de Sobibor, machin. Et, et derrière la révolte de Sobibor, il y a aussi une histoire. Et j'ai demandé à Shlomo de vérifier, et il a dit ouais, c'est Nahon, c'est vrai quoi. C'est vrai, avec toute une histoire, avec un des commandants du camp qui est marié avec une femme qui en fait était une juive, machin, cachée, qu'il ne savait pas. Grosse histoire. Bekitsour, il y a, quand on se pose la question de où il était et pourquoi et qui, comment, vous connaissez forcément cette photo.
C'est
les sept nains d'Auschwitz. Ah, vous la connaissez, elle est connue. C'est la famille Ovitz. La famille Ovitz vont être déportés, et évidemment, parce que c'est sept frères et sœurs, tous nains de naissance, ils vont extrêmement intéresser ce bon docteur Mengele. Évidemment, question expérience médicale, c'est pour la science. Bien sûr. Maintenant, alors, je vous la fais passer, mais simplement, regardez bien, elle. Elle, l'avant-dernière sur la gauche de la photo, il s'agit de Perla. Perla Ovitz. Perla, elle a survécu à la Shoah. Et en 2001, le 10 janvier, c'est son anniversaire. Elle fête ses 80 ans. Et elle va donner un témoignage. Pardon ?
Elle habite où ?
Elle habite, et je ne sais pas si elle est encore en vie aujourd'hui.
Elle était en Israël.
Elle était aux États-Unis, elle était un peu en Israël. À la base, elle venait de Roumanie. Et Perla Ovitz, voilà ce qu'elle raconte le 10 janvier 2001. À son anniversaire de 80 ans. Perla est en pleine forme et nous chante quelques beaux titres de son répertoire. Elle était chanteuse avant la guerre. On se rappelle quand elle chantait et quand la Roumanie venait la voir chanter. Elle a conservé l'éclat de la jeune fille et la chanteuse adulée de l'ange qui avait toute la Roumanie pour scène. Mais très vite, nous parlons d'Auschwitz. L'univers concentrationnaire a ébranlé la foi de nombreux survivants, mais pas la sienne. Et là, c'est elle qui parle. Vous pouvez retrouver ça dans le livre La troupe des Lilliputiennes. Voilà, on dit ici, ah ben voilà, tu vois, c'est autant pour moi, je ne me rappelle plus. Elle est morte à Haïfa le 9 septembre 2001. On dit ici à Haïfa.
2001.
Là, c'est celle-là. Ouais, l'avant-dernière. L'avant-dernière.
Voilà.
Et donc voilà comment elle parle. Je ne comprends tout simplement pas comment lui, qui voit le monde entier, a pu voir les flammes jaillir des cheminées et dévorer ses enfants sans rien faire. Il y a des rabbins qui disent que nous autres juifs avons péri durant la guerre à cause de nos péchés. Bien que je sois orthodoxe et que j'ai le plus grand respect pour les rabbins, je trouve cette explication exécrable. Nos amis, nos parents étaient extrêmement pieux et n'ont jamais rien fait pour mériter un tel châtiment. Nous sommes trop petits et trop limités pour comprendre les desseins de Dieu. Le feu était sa volonté, comme c'était sa volonté d'épargner notre famille. Si j'avais été une jeune fille juive d'un mètre soixante, j'aurais été gazée comme des centaines de milliers d'autres juifs. Alors, si je devais me demander pourquoi je suis naine de naissance, tout ce que je répondrais, c'est que mon handicap est le seul moyen que Dieu ait trouvé pour me maintenir en vie. Ah ouais, qu'est-ce que tu réponds à ça? Est-ce qu'on peut répondre à ça? C'est pas... C'est, mais évidemment.
C'est Ashgacha Pratit,
complètement. Et je vais te dire ça, c'est Ashgacha Pratit contre Klalit, et c'est surtout un ressenti. Peut-être que c'est pas pour ça. Mais comment tu veux te battre avec ce ressenti-là? Et en fait, quand on pose la question de où est Dieu pendant la Shoah, tant qu'on n'est pas prophète et qu'on n'en reçoit pas l'info de Dieu, qui dit « Ko Amar Hashem », la Shoah, c'est à cause des brachot pour les chewing-gums, bah, ça ne restera que du ressenti personnel.
Si on
n'a pas le choix.
Si on prend l'histoire d'Iov,
oui.
Et quand on voit dans le début du texte que le Satan vient chez Dieu en disant celui que tu vois comme ça ici, attends, laisse-moi un peu.
Mais le, mais le,
tu verras qu'il n'est pas comme ça.
Ouais.
Et Dieu le laisse faire.
Nous.
Donc, je veux dire, c'est pas très compréhensible.
Oui, mais attends, si tu vas vraiment jusqu'au bout dans Iov, le Satan il bosse pour qui? Il bosse pour qui? D'après le livre. Il bosse pour Dieu.
Bien sûr.
Donc ça veut dire, vas-y, il le laisse faire. Il l'envoie.
Il l'envoie.
Bah, tu peux dire pareil pour les Nisyonotes qu'il a envoyé à Abraham. Tu peux dire pareil pour les Nisyonotes qu'il envoie au peuple juif. C'est-à-dire que, oui, Dieu, des fois, il envoie des épreuves. Mais moi, ce qui m'intéresse, si déjà tu arrives dans l'Iov, il a eu les épreuves. Il est dans la douleur. Ah, vas-y, la douleur. Au niveau individuel, Shoah, il l'a vécu.
Bien sûr.
Sa femme est morte, ses 10 enfants sont morts, il a tout perdu, il est malade, bah, il a tout. Bon, Et il y a des gens qui viennent nous expliquer pourquoi il souffre. Il y a 3 personnages qui viennent lui donner les réponses à sa souffrance. Hein, on connaît Eliphaz Atémani, Bildad Ashuchi, Tsofar Naamati. Et les 3 viennent nous expliquer. Ils ont raison ou ils n'ont pas raison? Eh bien, c'est intéressant de voir que lorsqu'il parle, il parle, il parle, finalement, va Yomer Hashem el Eliphaz Atémani. Dans le livre de Yov, au chapitre 42, à la fin du livre, il dit va Yomer Hashem el Eliphaz Atémani. Chara api becha u beshne re'echa. Je suis très énervé contre toi et tes 2 copains. Ki lo dibartem nechona ke avdi Yov. Vous avez mal parlé. Le seul qui a bien parlé, c'est Yov. Et qu'est-ce qu'il a dit? Bah pendant tout le livre, il dit un seul truc. Il dit aïe.
Ouais. Ouais.
Bah voilà.
Qu'est-ce qu'il dit?
Aïe. Koevli. Kacheli. Voilà ce qu'il dit. Lui, il a bien parlé. Vous qui avez donné des réponses, tu prends. Si tu donnes des réponses. Un, tu ne sais pas si elles sont vraies, et 2, même si elles sont vraies. C'est pas ton problème. Donc évidemment que c'est personnel. Tout n'est que personnel. Nous, on nous a appris que quand on transmet, on essaye de transmettre l'histoire de la Shoah, on doit sortir de « his story » pour arriver à « his story ». On ne peut pas parler de la Shoah par le prisme de 6 millions. Et en plus, je vous dis, c'est pas juste. Parce que sur les 6 millions qui sont morts, il y en a 6 millions qui ne sont pas morts. Pourquoi on n'en parle jamais? Pourquoi est-ce que dans les tkassim de Yom HaShoah, on ne parle que de ceux qui ne sont pas rentrés? Et on ne parle pas assez de ceux qui sont rentrés.
Oui, mais quand tu parles de l'histoire, qu'est-ce qu'il y aura dans 5-6 générations? Il n'y aura plus rien, même avant.
Ben justement, il restera ceux qui sont revenus et qui ont raconté.
Oui, mais dans quelques générations...
Ben, il revenu plus
d'Afrique. Ah ben, dans quelques générations, ceux qui sont revenus ne seront plus là.
Oui,
mais ceux à qui ils ont raconté, ils seront là.
D'où la transmission est toujours...
Donc, si tu veux, la question est de savoir où est-ce qu'on met le curseur. Est-ce que nous, on veut se concentrer sur ce que les nations ont détruit ou sur ce qu'ils n'ont pas réussi à détruire?
Mais ça répond plutôt du sens de...
Du souvenir.
Du souvenir. Mais ça répond pas à la question qu'on se pose.
Mais si, ça
pourquoi?
Ah, alors, non, évidemment, mais ça en a dit. J'en sais rien.
La réponse, c'est la
Mais évidemment, ça. Hein.
Même ce qui est sans
bah, c'est très présomptueux quand même de dire. Et voilà, c'est, je n'en sais rien, mais moi, je peux te dire.
Pour moi,
voilà.
C'est ça.
Exactement. C'est ça. Exactement. Par exemple, je donne un exemple qui n'est pas de la Shoah, mais qui est très, très compréhensible. Il y a marqué dans la Torah, Lo irani Adam Vachal. Il n'y a pas un homme qui me voit et qui est vivant. D'un autre côté, le prophète Jérémie, il dit, Raïti et Hashem Yoshev al Kiseh Ram Venissa. J'ai vu Dieu. Et, monsieur Jérémie, tu n'as pas vu que dans la Torah, il y a marqué que Lo irani Adam. Il dit, je sais qu'il n'y a pas marqué comme ça, mais je te dis ce que j'ai vu. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller contre un ressenti.
Pour aller dans ton sens. Quand tu prends deux personnes de la Torah et tout le monde en connaît beaucoup, mm-hmm. quand tu en prends un qui n'était absolument pas religieux, qui est rentré dans les camps, il en est ressorti, il est devenu rabbin.
Ouais.
Hein, c'est
ouais.
le rabbin Kahn à Metz.
Ça existe, ça existe.
Rabbin Kahn, il n'était absolument pas religieux et est devenu religieux après. Et t'en as d'autres qui sont malheureusement rentrés comme rabbins et qui sont sortis et qui n'ont plus été rejetés.
Bien sûr.
Et il y en a qui n'étaient pas au début et qui n'étaient toujours pas à la fin. Il y en a qui l'étaient au début et qui sont restés à la fin. C'est d'abord, je ne sais pas, c'est normal, mais en tout cas, c'est légitime. Voilà, c'est légitime. Et ça, et ça, et ça, et ça. Ce n'est pas à moi de lui dire, c'est pas bien que tu sois devenu comme ci ou comme ça. Il a ressenti, évidemment, non, il a ressenti qu'on s'acharnait contre lui. Ça peut arriver. Ou alors il a ressenti qu'il avait un truc qui le protégeait. Ou alors il n'a rien ressenti, qu'il y avait quelque chose de particulier.
Je crois pas qu'il y en ait beaucoup qui n'aient rien ressenti. Je ne sais pas.
Mais... Elie Wiesel, il disait, après la Shoah, on peut être pour Dieu ou anti-Dieu, mais on ne peut pas être sans Dieu.
Non, puis c'est dans tout. Je veux dire, même si à ce moment-là, si on ne parle plus de la Shoah, mais dans les cas graves, dans les... comme ceux qui sont morts,
c'est vrai pour tout, mais bien sûr, c'est vrai pour le terrorisme, c'est vrai pour les maladies, mais bien sûr, mais bien sûr, tu comprends que en fait, toutes ces questions qu'on se pose sur la Shoah, on se les pose et on ose se les poser parce que ça touche le peuple, voilà, parce que ça touche la collectivité. Mais en fait, ce sont les mêmes questions que chaque famille endeuillée se pose. Là, on est dans une vague d'attentats, évidemment que c'est pareil pour les gens qui ont perdu leurs proches. C'est la question est toujours la même. La question est toujours la même. Et donc, quand on se pose la question, où était-il ? Mais c'est pas dingue qu'il était là-bas. C'est évident qu'il était là-bas. Et donc, quand tu dis, mais pourquoi il a laissé faire ? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, il a laissé faire ? C'est-à-dire que de la même façon qu'il y en a énormément qui sont morts, et je ne sais pas pourquoi, et certainement qu'ils n'ont absolument pas mérité du point de vue de halakha, ou du point de vue de t'as fait ça, tu mérites ça, justice. Je ne sais pas. J'ai envie de croire que lui, il sait. Mais d'un autre côté, je pense aussi à tous ceux qui sont ressortis. Il y a une scène fantastique qui est un film qui est en rapport avec la Shoah, sans être en rapport avec la Shoah, parce que certes, il traite de la Seconde Guerre mondiale, mais pas directement de la Shoah.
Oh, bah, je vais fermer pourtant.
Je t'ai dit, on ne comprend pas. On ne sait pas. Il y a un film comme ça qui est... alors je dis, il n'est pas à dire, ça s'appelle, je ne sais pas si vous l'avez vu, Il faut sauver le soldat Ryan.
Bien sûr, bien sûr.
Alors, c'est la période, hein, c'est la Deuxième Guerre mondiale, mais ce n'est pas directement tourné du tout, c'est un film de guerre, les Américains contre les Allemands.
Trois frères qui sont...
Voilà. Et donc, il y a cette histoire de ce fameux soldat Ryan. Il y avait trois frères de la famille Ryan, deux sont morts dans le débarquement, il y en a un troisième, et on n'a pas reçu de lettre comme quoi il est mort. A priori, il est toujours en vie, et on met sur pied un commando pour aller le chercher et le ramener à sa famille, en Amérique. Parce que c'est, on ne veut pas que tous les fils d'une famille disparaissent. Toutes les péripéties du film, finalement, tout le monde l'a vu ? Bon, finalement, vous vous rappelez, ils le sauvent. Mais toute l'unité qui est partie le sauver, sont tous morts. Ok ? Et Mamash, et le dernier, Tom Hanks, qui est le commandant, il le sauve juste avant de passer le pont et d'être sauvé. Il y a une scène fantastique, et moi je la mets en Pologne. Je la mets, cette scène-là, pour tout le monde. Parce qu'à la fin du film, on voit, en fait, le film il commence avec un vieux monsieur qui vient en France,
ouais,
dans le cimetière du débarquement.
Ouais, et puis...
Donc c'est très impressionnant. Hein. D'ailleurs, mon père, il a pris sur lui un soldat juif. Il y a un cimetière comme ça de Saint-Avold C'est un cimetière américain. Et dedans, il y a un soldat juif. Et il n'y a personne pour dire Kaddish. Donc il a pris sur lui, voilà, moi je dirais Kaddish pour lui le jour où il est tombé, machin. Maintenant, donc c'est très impressionnant, des cimetières énormes, machin, machin. Et donc, tu le vois arriver. Et il regarde, et il y a un fondu dans son œil, et il revient à toute l'histoire. Et à la fin du film, ça revient sur lui, et il est en larmes, il y a sa famille qui est à côté de lui, et il demande à sa femme, parce que la dernière scène, avant que le commandant qui le sauve meure, il lui dit « Mérite ça. » C'est-à-dire, il y a 8 personnes qui sont mortes pour toi, pour que toi, tu puisses vivre ta vie. Mérite ta vie. Et donc, à la fin du film, donc il a la fin de sa vie, il se tourne vers sa femme et il dit « Est-ce que j'ai mérité ça ? Est-ce que j'ai été une bonne personne ?» Ça, c'est une grande question. Est-ce que j'ai été quelqu'un de bien ? Donc, si vous voulez, quand on se pose cette question-là, mais les amis, tous ceux qui ont survécu...
C'est terrible, cette question.
Mais c'est terrible, mais c'est notre question à tous.
Problème, d'autant plus pour ceux qui ont survécu à la Shoah.
T'as compris? C'est ça que je veux te dire. C'est-à-dire le mec qui a survécu et que son copain à côté...
Pareil, toute sa famille.
Tu comprends? Est-ce que j'ai mérité ça? On m'a donné une vie. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ça, c'est fondamental. Et je pense honnêtement, et moi je parle en tant que troisième génération, je me dis, mais alors moi, qu'est-ce que je vais en faire, moi, de ma vie? C'est-à-dire, ma grand-mère, on lui a donné la vie. Si Akadosh Baruch Hu, il décide qu'elle ne survit pas, je ne suis pas là. Donc, il a décidé qu'elle, elle survivait. Et donc, ma mère est née, et donc, moi, je suis né. Ah, très bien, mais alors, je fais quoi, maintenant? Et je pense que c'est ça, la grande question. Hein? Moi, j'ai décidé que, voilà, j'allais essayer d'enseigner un petit peu la Torah et de faire découvrir Israël et de transmettre que, ce que j'ai appris. Mais
l'antisémitisme a toujours été et sera toujours.
L'antisémitisme, alors, non. L'antisémitisme a toujours été, mais il ne sera pas toujours. Il sera ta chaîne. Il y a un moment donné où même les nations vont comprendre.
Ah, non, j'espère.
Bah, oui. Ouais. Non, c'est le but. C'est
si
le but.
Dieu veut.
Si Dieu veut. Dieu veut. C'est-à-dire, donc, évidemment, donc, ça, c'est la grande question. On a dit, on ne peut pas se focaliser sur ceux qui sont tombés. Il faut en parler, bien sûr. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi mettre l'accent sur ceux qui ne sont pas tombés? C'est un changement complet de regard sur la Shoah. C'est évident. C'est un vrai changement. Alors, tu peux aller au CNEF, machin, Zikaron Bassalon. Les gens qui parlent, ça veut dire qu'ils n'ont pas mort.
C'est difficile d'expliquer ça à un enfant de 12-13 ans.
Je ne pense pas que ce soit la question qu'il pose.
Non, mais, oui, mais les enfants, justement, ils peuvent répondre. Est-ce qu'on lui fait prendre conscience qu'il peut y avoir cette question?
Encore une fois, je ne pense pas à cet âge-là. Non, 12, 13 ans.
Je pose une question au niveau de la transmission.
Je ne pense pas. Si ça ne vient pas de lui, ce n'est pas la peine tout de suite de lui mettre ça dans la tête. Ça viendra. Ça viendra. Je pense qu'il y a des questions beaucoup plus terre à terre. Moi, je me souviens. Je le dis à chaque fois. Enfin, je me souviens, je n'étais pas là, mais je l'ai lu. 1962, l'État d'Israël décide de commencer à enseigner la Shoah dans les petites classes.
Oui, après l'affaire Eichmann.
Oui. Ouais.
Et
donc, on va prendre une classe, témoin, et on va faire venir un rescapé. Oui, il y en avait beaucoup plus, hein, les années 60, évidemment. Et on fait venir un rescapé, il raconte, bon, un peu édulcoré, c'est quand même une classe des gens, ils ont 10 ans. Et on lui raconte. On leur raconte à ses enfants la Shoah. Et même avec beaucoup de pincettes, bah, c'est quand même... voilà. C'est cavette. Et puis c'est surtout qu'ils n'ont jamais entendu parler de ça. Hein. On parle de gosses de 10 ans qui sont nés en Israël. Ils n'ont jamais entendu ça. N'oubliez pas que pendant les premières années d'État d'Israël...
Hein, blackout.
Blackout complet. La Shoah n'a pas existé. C'est-à-dire, j'exagère, mais pas tellement.
Comme les parents qui ne parlaient pas.
Ouais, on veut pas reparler de... Non. Et là, donc, il parle. Et donc, il parle, il raconte à sa classe... Et à la fin des 2 heures où il raconte, il y a un élève qui pose une question toute bête. Ça fait 2 heures qu'on vient de me raconter qu'il y a des méchants, ils ont voulu tuer les juifs. Il dit, mais où était Tzahal ?
Oui, ça,
où était Tzahal ? Ça nous fait sourire. Mais lui, ça ne fait pas sourire. Parce que lui, il ne comprend pas qu'il y a une réalité où il n'y a pas. l'État d'Israël.
Ça, c'est un gosse de 10 ans, mais quand on lit le livre de Naftali Lavie, pas de,
de
Naftali Lavie, quand il dit que quand il y avait l'attentat de Maalot, et qu'il était l'adjoint, il était le chef de cabinet de Moshe Dayan. Mm-hmm. Mm. Et lorsque Moshe Dayan, ils attendaient avant de monter à l'assaut, qui s'est mal terminé, Moshe Dayan a dit à Naftali Lavie, maintenant je comprends pourquoi les Juifs ne se sont pas, ils n'ont pas pu se révolter. Parce que parmi les instituts, parmi les profs qui est là-bas, il y avait des gens de Sayeret, il y avait des trucs, et ils ne pouvaient rien faire.
Et ça, il y avait les enfants, il y avait les trucs, machin, est-ce qu'on veut en danger, est-ce que... Bien sûr, mais bien sûr. Donc, quand il dit, mais où était ça, nous, ça nous fait sourire. Mais lui, il ne comprend pas. Lui, il ne comprend pas qu'il y ait une réalité où il n'y a pas d'État d'Israël. Moi, j'arrive et je pose la question derrière. Je dis, et s'il y avait eu l'État d'Israël, ça aurait changé quoi?
Il y a un renouveau d'antisémitisme.
Hein, ça aurait changé? On aurait réussi à battre l'armée allemande? On aurait pu sauver des Juifs. Bah, ils seraient venus aussi nous attaquer aussi.
Je pense que c'est difficile.
On aurait arrêté Rommel.
J'arrive pas à les camions là.
T'imagines?
Là, on peut pas.
Est-ce que la chose aurait pu avoir lieu s'il y avait eu les smartphones?
Ah, ça, je me suis souvent posé la question.
Voilà. Parce que, ah ben oui.
Il y a rien, téléphone.
Non. Mais les smartphones, il y en a toujours un qui échappe, qui filme, qui envoie un WhatsApp.
Je te signale, Jean-Paul, je signale qu'en Russie aujourd'hui,
voilà,
il y a un smartphone. Hein.
Oui,
mais. Il y a
une mère. Ça n'empêche pas la guerre et ça n'empêche pas les.
Je vais vous dire. Je vais vous dire. Moi, à cette question-là, je vais te répondre très simplement. Alors, je pense pas que ça empêcherait. Je pense que ça ferait des gros titres dans les journaux, mais qu'au final, les politiques, ils ont très peur d'aller au conflit. Je vais te dire, on n'était pas à l'époque du smartphone, mais quand même.
Mais même la Shoah, tout le monde le savait.
Non. D'abord, non, pas autant. Avant 1943, personne ne savait rien du tout. Bémet que personne ne savait rien du tout. Donc, pas que les Juifs, hein, même, je parle pour les Goyim. Donc, la Shoah est quand même une grande partie où vraiment les gens ne savaient pas. Mais.
Pichipoy.
Mais deux secondes. Moi, j'avais 9 ans en 1994. Et oui, bon, moi j'avais 9 ans, ne me demandez pas grand chose. Mais je vais vous avouer, mon père et moi. Et mon frère, eh ben, on regardait, alors c'était compliqué parce que c'était les horaires américains, mais il y avait la Coupe du Monde en été 1994. Coupe du Monde de football aux États-Unis. Alors c'était des horaires compliqués comme j'ai dit, mais c'est pas grave, on regardait tous les matchs. Maintenant c'est quoi les horaires compliqués? Les matchs qui ont lieu à 5h de l'après-midi aux États-Unis. Bon bah en France,
minuit.
Ça fait du minuit. Bon, mais deux secondes. Il y avait quoi au même moment? On n'est pas à l'ère d'Internet, mais ce n'est pas non plus le Moyen-Âge. C'est les années 90. Il y avait le génocide au Rwanda.
Ah oui,
absolument.
Oui.
Bah, on c'est savait. Clair.
Bien sûr.
Donc pour te dire que c'est, à mon avis, ce n'est pas ça qui aurait empêché quoi que ce soit. Ça a l'air.
La preuve, aujourd'hui, on n'empêche pas.
Non, mais c'est vrai. Vous savez qu'il y a un film à Yad Vashem. Bon, il est tout petit et il est dans une petite lucarne. Je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça comme ça, mais. Mais il y a un mini-film comme ça à Yad Vashem. Bah, c'est pas plus grand que ma feuille. Dans la partie, dans la section qui est réservée à la révolte du ghetto de Varsovie. Ils te mettent un petit lucarne où tu vois, en fait, un mec faire du funambule sur un fil, comme ça. Et en fait, c'est bon, il n'y a pas d'autre explication. Mais si tu ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Il y a Varsovie, il y a le ghetto de Varsovie, où ça meurt tous les jours. Et de l'autre côté du mur du ghetto... On est à l'été 1942, il y a un cirque. De l'autre côté, à Varsovie. Et les gens, ils vont au cirque, ils sont contents. Et de l'autre côté, ça meurt par milliers, par dizaines de milliers tous les jours.
Bah, je veux dire, à Auschwitz, il y avait des gens qui étaient de Auschwitz et qui travaillaient avec les déportés à côté. Hein,
dans la même... Donc, pour répondre à ta question, est-ce que les smartphones auraient empêché quoi que ce soit? Je pense pas. Je pense pas.
L'État d'Israël, je pense. Oui.
Alors, toi, tu dis l'État d'Israël? Moi aussi. Moi aussi.
La semaine dernière, trois personnes en Talit, en Iratika, se sont fait massacrer. Enfin, ils se sont sauvés. Ils ont reçu des coups.
Ils ont reçu des coups. Mais il y a une différence entre recevoir des coups et la Shoah.
Non, mais ça n'a pas.
Mais,
ils sont capables de faire la Shoah.
Je m'excuse de mettre ça sur le truc, mais oui. quand on lit le Tanakh et qu'on lit ce qui s'est passé du temps des rois, etc., des massacres, 70 frères et trucs qui ont été...
Non, ça c'est des massacres, ça c'est des jeux de pouvoir internes, machin. Non, nous aussi, des fois, on n'a été pas cool. Mais deux secondes, deux secondes.
Non, je veux dire, c'est pas...
C'est vrai que, comme tu dis, des fois, nos ennemis, encore aujourd'hui, ils viennent et ils font des attaques antisémites. Mais il y a quand même une grande différence, c'est que on peut répondre. Et on peut essayer de faire de la prévention. Et là, encore une fois, enfin moi, je suis pas un militaire de carrière, mais pour le peu de temps que j'ai passé à l'armée, je peux t'assurer que c'est vrai qu'il y a des fois où on n'a pas réussi, mais pour la fois où on n'a pas réussi à les arrêter, il y a eu 20 fois où on les a arrêtés.
C'est le cas aujourd'hui.
Non, mais je sais. Non, mais aujourd'hui aussi, non, bien sûr. Ça veut dire que, évidemment, c'est différent. Évidemment, c'est différent. Je pose la question au niveau militaire. Est-ce que l'État d'Israël de l'époque, il aurait pu tenir tête à... La vérité, c'est que la réponse, elle est simple. Mathématiquement, bien sûr que non. Mais israélement parlant, de toute façon, on sait que ça ne marche pas avec les mathématiques.
Ouais.
Donc oui, on aurait certainement tenu, parce que c'est le cours de l'histoire. Mon mot de la fin, il est très simple. Où était Dieu pendant la Shoah ? Il était à Auschwitz, il était à Maïdanek, il était partout. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais sur quoi, moi, 74 ans plus tard, sur quoi moi j'ai envie de mettre l'accent qui se joue contre 74 plus 74, c'est Yom HaTzmaout, presque 80 ans plus tard, sur quoi moi j'ai envie de mettre l'accent, peut-être qu'il est temps de mettre l'accent sur la vie et sur ceux qui ont survécu sans occulter, mais peut-être que à chaque histoire qui s'est mal terminée, raconter une histoire qui s'est bien terminée.
Ouais.
Peut-être que c'est une vision qui...
À titre personnel, on le fait tous.
D'où l'importance du témoignage.
Ceux qui sont là, ils racontent. Je raconte à mes petits-enfants.
Mais bien sûr.
Chaque famille a eu des...
Mais bien sûr. Évidemment.
Chez nous, c'était.
Mais c'est ça.
Mon père avait fait une armée allemande.
Mais c'est exactement ça.
Il n'y a
pas de discussion. Donc je pense qu'on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez parce que tu sais, les gens ils disent, mais j'ai rien fait de spécial.
Les Allemands sont capables.
Les gens qui ne veulent pas parler, ou alors qui parlent mais qui ne veulent pas, ils se disent, mais j'ai rien d'extraordinaire, j'ai rien de particulier, j'ai rien fait. J'ai rien fait, j'ai pas mérité, je vous raconte, mais. Mais je pense qu'au contraire.
J'ai pas mérité. J'ai jamais entendu.
T'as jamais entendu ?
Jamais. Dans tous les témoignages, j'ai jamais entendu « j'ai pas mérité ».
Non, mais les gens...
T'as dû entendre du « pourquoi moi ?»
Pourquoi moi ? Je suis sorti, c'est tout le monde a raconté ça.
Et maintenant, sur les témoignages, comme on fait en deuxième génération et troisième, en tout cas, moi, je finis toujours sur une histoire sympa où on s'en est sorti.
Mais oui, mais parce que toi, tu es la preuve vivante qu'on s'en est sorti. Donc, c'est facile. Moi, je dis, quand on vient de manière plus détachée...
Parce qu'on démarre très mal.
Oui, non, mais d'accord. Mais ils savent qu'ils vont voir une rescapée, ils vont voir un enfant rescapé. Donc, ils disent, OK, donc, au moins là, ça a marché. Mais moi, je pense la question, quand ce n'est pas toi qui témoigne, quand c'est moi qui viens faire un cours détaché ou qui viens guider en Pologne, est-ce que je vais me concentrer sur les histoires de la mort ou est-ce que je vais parler aussi là-bas des histoires de vie ? Eh bien, moi, j'essaye...
C'est bien là-bas. Là-bas, il faut parler des histoires de vie.
C'est vrai, moi, là-bas, j'essaye de faire la parité entre les histoires qui sont mal finies et les histoires qui sont bien finies.
D'autant plus si c'est des jeunes.
Mais bien sûr.
Je peux poser quand même une question. La Shoah n'a aucune dimension avec tout ce que le peuple a
fait. Exactement.
Aucune dimension. Moi, j'ai toujours eu une sensation au moment de la Gilat Esther. Parce que je dis, ça aurait pu être une Shoah et ça n'a pas été. Alors, tu as toujours cette sensation. Pourquoi il n'y a pas eu
Je vais te dire. Mais bien sûr, je comprends.
L'intuition,
c'est encore différent parce que c'est l'assimilation, mais c'est pas la destruction.
C'est aucune dimension.
Si tu te convertis au christianisme, tu te fais pas massacrer a priori dans l'inquisition.
Okay.
Bah, c'est différent. Je reviens du Portugal. Nos amis maranes, Bon, c'était peut-être pas très marrant, mais au final, tu te convertissais, tu survivais. Après, tu faisais ton judaïsme en secret, pas en secret, tu te convertissais pour de vrai, mais c'est pas pareil. Maintenant, quand tu dis il y avait la Shoah possible à Pourim, il y a eu la Shoah possible à Pourim, il y a eu la Shoah possible quand on est sorti d'Égypte, où Amalek est venu pour nous massacrer jusqu'au dernier, il y a eu la Shoah possible dans l'embryon du peuple juif, parce que Esav se rapproche pour massacrer Yaakov et ses enfants. On avait déjà parlé, mais ce schéma de Shoah possible arrive toujours quand on est entre l'exil et la Géoula. Quand on n'est plus en exil vraiment, mais qu'on n'est pas encore véritablement en Géoula. Comme à l'époque de Yaakov qui est sorti de chez Lavan, mais qui n'est pas encore retourné en Eretz Israël vraiment. Ou alors, quand on est sorti d'Égypte, mais on n'est pas encore arrivé en Israël. Quand il y a eu la déclaration Koresh qui permet aux Juifs de revenir en Israël, mais on n'est pas encore vraiment revenu, il y a eu Pourim. Et quand il y a eu la déclaration Balfour sans Rémo, mais qu'on n'a pas encore construit l'État d'Israël. Dans les autres fois, finalement, on a réussi à s'en sortir. Et là, on n'a pas réussi à s'en sortir. L'Oyodéa. Je sais juste une chose. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas eu la Shoah. Pourquoi il y a eu la Shoah. Mais il y a un truc qui nous a manqué, et ça, c'est sûr. Je ne dis pas que c'est à cause de ça qu'il y a eu la Shoah. Je dis que ça aurait pu jouer en notre faveur, et c'est sûr qu'on n'avait pas ça. Si tu regardes bien à Pourim, il y a peut-être le secret de Pourim, c'est lorsque Esther dit « Ok, je suis prête à intervenir, mais à une condition. » L'air kenos et kol ayoudi ma chère Beshushan. Va et rassemble tous les juifs qui sont à Shushan. Cette dimension d'unité est nécessaire si tu veux pouvoir survivre. Les amis, on ne va pas se voiler la face, hein, mais l'époque de l'avant Shoah, je ne sais pas si on a fait pire en termes de sinatrinam dans le peuple juif. Ah bah oui, faut se dire les choses. Faut se dire les choses, les amis. Alors, si on parle de en Israël.
Pire qu'au deuxième temps.
Alors, si on parle de en Israël, ouais. En Israël, les années 30, c'est le grand n'importe quoi. Vous savez comment on appelle cette période-là? C'est quand même incroyable. Dans le livre d'histoire israélien, la période des années 30 en Israël, hein, on appelle ça la période de la saison.
Ah oui.
La saison.
Pourquoi?
C'est la saison de chasse.
Parce
qu'il y a entre la Haganah, le Lehi et le Hetzel, on se vend aux Anglais,
oui.
On se dénonce, on se truc. C'est Sinatrinam, la Méhadrine, quoi. Et ça se massacre pour de vrai. Ça, c'est en Israël. En Houtz-Laharetz.
C'est pas mieux.
Alors, on n'en est pas à se vendre, mais les communautés de Hasidim n'ont aucune sorte de contact avec les Litaïm. Les Ashkenazim méprisent les Sfaradim, mais d'une force c'est incroyable. Les Chilonim.
Vous ne connaissez pas les Sfaradim.
Qui?
Les Ashkenazim ne connaissaient pas les Sfaradim.
Mais arrête.
Non,
mais
pas.
Arrête. D'abord, peut-être pas monsieur tout le monde qui est dans son village. Non, ça, c'est sûr que non.
On peut comparer alors avec
les
communautés alsaciennes avec les communautés polonaises.
Ça, c'est autre chose. Non, mais attendez. Je t'ai pas dit qu'en Pologne, ils connaissaient le Sfarad. J'ai pas dit ça. J'ai dit que, par exemple, dans le sud de la France, on connaît très bien les communautés qu'il y a au Maroc. Ok, je suis d'accord avec toi que de la Pologne peut-être pas, mais le fait que voilà, mon grand-père quand il arrive à Metz de son patelin en Pologne, je peux t'assurer que les Yekes là-bas, ils le voient, voilà, vaut mieux qu'on se marie avec un goy plutôt qu'avec un polonais. Donc si vous voulez, j'ai pas offert un dessin, on n'était pas unis, c'est pas un ridouche, d'accord.
Mais on n'était pas unis avant non plus.
Mais
c'est ce qu'il dit.
Non, pas du tout. J'ai ma première phrase, c'était, je dis pas que c'est à cause de ça. Je l'ai dit en premier, je te le redis maintenant. C'est pas à cause de ça. Je pense pas que ce soit à cause de ça. Je dis simplement que c'est sûr que ça n'a pas joué en notre faveur.
L'état des choses, c'était comme ça.
Elle était comme ça. Je ne pense pas que c'est bien que ce soit l'état des choses. Je dis pas que si on avait été unis, il y aurait eu un miracle. J'en sais rien du tout. Je dis juste que. Si tu prends l'exemple de Pourim, le seul truc que je vois à Pourim de positif, c'est qu'on a réussi à se réunir tous ensemble. Moi, je suis désolé, je me rappelle du Rav Lao qui nous dit, à Auschwitz, dans le baraquement, qui nous dit, il nous raconte cette histoire incroyable, alors que lui, il n'a pas vécu, hein, mais il nous raconte.
Il a vécu, il y a
non, mais pas cette histoire-là.
Ah.
L'histoire qu'il nous raconte, ouais. Il nous raconte une histoire qu'il y a un moment donné, il y a un groupe de juifs hongrois qui arrive.
44.
Et ouais, en 44. Et les chambres à gaz, elles ne marchent pas. D'habitude, ils vont directement, machin. Là, ils sont mis dans un baraquement. Maintenant, il y a une partie du groupe qui est mis dans un baraquement où il y a des juifs de Salonique. Ils ne vont pas se parler. Ils ne vont pas se parler parce que les uns ont peur des autres. C'est-à-dire que pour les juifs de Salonique, un juif, c'est un mec qui est bronzé, qui a une moustache, qui parle avec les mains. Et qui parle le grec, le judéo-arabe, pas, non, on n'est pas le judéo-arabe, le ladino peut-être. Ils voient un juif qui est blanc, qui parle l'allemand, le yiddish, c'est un allemand un peu contourné. Ça doit être un nazi de confession israélite, ça c'est pas possible. Et pareil, les hongrois, pour eux, un juif c'est un hongrois. Et ils voient des mecs bronzés, c'est pas possible. Ils se parlent pas. Pendant les jours où ils sont ensemble dans le baraquement, ils se parlent pas. Et le Rav Lau, il raconte que vendredi soir, d'un côté et de l'autre du baraquement, on entend des airs fredonnés de l'Ochadodi et ils comprennent que c'est des juifs tous. Et ils tombent dans les bras les uns les autres et ils vont ensemble à la chambre à gaz le lendemain matin. Alors il te dit, oui, dans la Shoah, on a appris à mourir ensemble. Après, il rajoutait, alors maintenant, le défi de l'après-Shoah, c'est d'apprendre à vivre ensemble. Donc, je ne te dis pas que c'est à cause ou pas, bien sûr que ce n'est pas à cause. Je dis simplement que c'est un truc qu'on n'avait pas. Je pense que c'est un truc qu'on a commencé à apprendre à développer après. Et je pense que ça, s'il y a bien un truc qu'on doit prendre de cette période-là, eh bien c'est ça. Quel est le message de Yom HaShoah, pas de la Shoah, mais de Yom HaShoah? Plus les années passent, et plus je pense que notre message doit être tourné vers la vie et ce qu'on a réussi à transmettre. Mais quoi? Pas seulement la destruction, mais aussi la reconstruction, aussi ceux qui ont réussi à survivre, parce qu'ils ne sont pas moins héroïques que ceux qui sont partis, et bien au contraire, le fait d'avoir réussi à se reconstruire, le fait d'avoir une famille, une image comme ça, où tu as voilà, des centaines d'arrière-petits-enfants, tu as des photos comme ça incroyables, où tu as le patriarche ou la matriarche de la famille qui est au milieu et on fait un Shabbat quelque part, et qui danse au mariage de son arrière-petite-fille. Mais voilà! Mais je pense que, alors, oui, c'est beau, ils ont fait des bébés, c'est très bien, mais la force qu'il a fallu pour ces gens de se reconstruire et de faire une famille.
Bah, les parents de Rosie, pas venant de
Chine. Et bien sûr. Et bien sûr, bah, les parents de ma mère, machin, c'est fondamental. Et c'est ça, à mon avis, qu'il faut transmettre. Cette force de
résilience.
Hein?
Cette force de résilience.
Oui, de dire que, et mal à la sorte, on sera tourné vers la vie. On sera tourné vers la vie. Voilà, c'est ça le message de Yom HaShoah de cette année.
Voilà. Amen. Pour l'unité du peuple.
Amen.